New York. Yeah. That's Queens, that's Brooklyn, that's Staten, that's Manhattan, that's the Bronx. Get stomped. That's where I'm from. From the slums, from the gutter, from the bottom, like the bottom of my shoe. That's how we do.
Le film Johnny Mad Dog nous fait suivre les parcours croisés d'enfants dans un pays d'Afrique de l'Ouest plongé dans la guerre. Tandis que Lao Kole, petite fille de 13 ans, essaie de sauver son père et son petit frère, Johnny, 15 ans, lui, fait partie d'une milice d'enfants soldats qui pillent et abattent à l'arme lourde tout ce qui se met sur leur chemin. Johnny Mad Dog, c'est un film de fiction au scénario hyper réaliste. Les acteurs sont eux-mêmes d'anciens enfants soldats. C'est l'adaptation d'un bouquin, Johnny Chien Méchant, signé Emmanuel Dongala. On a rencontré à l'occasion d'une avant-première à Lille le réalisateur du film, Jean-Stéphane Sauvert. En 2004, il avait déjà réalisé un documentaire sur des enfants impliqués dans un conflit armé en Colombie. Ça s'appelait Carlitos Medellin. On lui a d'abord demandé comment lui était venue l'idée d'adapter le roman de Dongala.
C'est une amie qui l'avait lu et qui m'a dit « tu devrais lire ce livre parce que ça va te plaire, c'est dans l'esprit de ce que tu fais ou ce que t'aimes et tout ça ». Et c'est vrai que j'ai lu le livre et je me suis dit « c'est intéressant parce que le sujet des enfants soldats me plaisait ». Et je me suis dit « plutôt que de partir 2 ans au Liberia, écrire l'histoire, revenir, trouver une production et tout ça », je me dis « là c'est bien, il y a une matière qui est le livre et à partir de là je peux l'adapter ». Et aller sur le terrain, confronter un peu ce livre à la réalité, quoi. C'est-à-dire, d'un coup, à partir d'un objet littéraire, se dire, est-ce que la réalité était vraiment comme ça ? C'était écrit par Emmanuel Dongala, lui, il est congolais, de Brazzaville, il a vécu en 97, il a fui le pays, donc il a vécu les événements qu'il raconte dans le livre. En même temps, c'est pas situé réellement au Liberia, donc c'est situé quelque part en Afrique pendant une guerre civile. Mais ça m'intéressait de choisir le Liberia, parce que c'est un pays qui a vécu 14 ans de guerre, et c'était important pour moi de travailler avec des acteurs et des adolescents qui avaient participé à la guerre, des anciens enfants soldats. Parce que j'avais l'impression que pour témoigner de ça, il fallait que ce soit des enfants qui avaient vécu. C'était difficile d'imaginer faire le film au Mali avec des petits Maliens ou au Sénégal qui connaissaient rien à cet environnement et à l'expérience de la guerre. Voilà, à partir du bouquin, après, j'ai confronté tout ça à la réalité du pays, quoi. Vraiment, ce que j'ai essayé de faire, c'est avec ce scénario et le travail des enfants qui a duré un an, parce que je me suis installé dans une maison, j'ai vécu avec eux, on a travaillé tous les jours ce film. À partir du scénario, c'était important de me dire, voilà, est-ce que vous avez vécu vraiment ça ? Est-ce que ça s'est passé comme ça ? Donc on a fait une série d'improvisations, parce qu'ils sont non seulement non professionnels au départ, mais ils ne savent pas lire, donc déjà ça complique par rapport à un tournage traditionnel. Et l'idée c'était, j'ai commencé à improviser avec eux sur les situations, je leur racontais une séquence du film, sans qu'ils la lisent, et après eux me donnaient leur version de la situation, quoi. Et je confrontais ça au scénario, je me disais, tiens, bah ouais, ça c'est la même chose, mais toi tu vas dire plutôt, on va garder ce que tu as dit là, c'est bien l'improvisation. Et je réécrivais comme ça au fur et à mesure, pour arriver à cette véracité un peu de toutes les séquences. J'avais aussi un conseiller militaire qui était un ancien enfant soldat, qui a maintenant 30 ans, qui joue le général Neverdy dans le film, et qui lui permettait sur toutes les séquences et tout le vécu pendant la guerre de ces gamins, pouvait me dire, voilà, ça s'est passé comme ça, ou ça va comme ça. Il y a vraiment des choses qu'on ne peut pas imaginer en tant que scénariste, quoi. Les chansons, les cris de guerre, toute l'ambiance,
sont leur expérience. Tout ça, c'était pas forcément écrit.
C'était pas du tout écrit, quoi. C'est arrivé vraiment, il y a eu un vrai échange, parce que j'avais envie d'échanger avec eux. Je leur dis, voilà, moi j'arrive avec ma culture du cinéma, je peux vous dire comment on fait un film et comment ça se passe. Par contre, je ne connais rien à votre expérience à vous. Et vous, amenez-moi votre expérience et on va confronter les deux, quoi. Parce qu'eux n'ont pas la possibilité de parler ou de s'exprimer ou de raconter un peu tout ça, quoi. Et c'est là où on a vraiment travaillé ensemble. Aujourd'hui, les gamins, quand on parle du film, ils disent c'est notre film et tout. Ils ont soit investi, ils n'ont pas juste pris le scénario, ils ont joué. Et puis c'est devenu une vraie aventure commune, quoi.
Il y a des choses fondamentales qui ont bougé lors du tournage, en vertu de ça, par rapport au projet de départ.
Par rapport au livre, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Et bon, ça n'a pas fondamentalement sur le scénario, sur l'histoire, mais je pense sur plein de détails. Exemple, la première séquence, par exemple, c'est les gamins qui rentrent dans un village, qui massacrent le village parce qu'ils cherchent de l'argent, des armes, ils suspectent les gens d'être des ennemis, l'ethnie ennemie face à eux. Et dans le livre, ils tuaient tout le monde et ils partaient. Donc on a commencé à répéter cette séquence et puis on dit non, mais le général m'a dit, mais on ne tuerait pas les enfants parce que les enfants nous servent à participer à l'armée. Donc le gamin, à un moment, il trouve un gamin qui est caché dans la maison, il me dit on va pas le tuer, on va lui demander de tuer son père et on l'embarque avec nous. Et d'un coup, la séquence prend une autre dimension. C'est-à-dire qu'en effet, dans le livre, c'est juste ils attaquent le village, ils tuent tout le monde et ils s'en vont. Et là, d'un coup, il y a une raison à ça. C'est-à-dire que ça devient plus gratuit et juste comme ça, une séquence pour une séquence. Mais il y a quelque chose de véridique qui me plaisait bien parce que ça permettait de préciser les choses et rien n'était fait gratuitement. Non,
leave me alone, please. Où les bras? Garçon, il y a un garçon pour us, please. You don't want to fight the
No, he's not a fighter.
Hey, man, a fucking fighter, let me tell you now.
He's not a fucking kid, why not better?
He's a fucking man, rapper.
Don't do it. Kill
him, come on.
Get him alone.
Come on, man, you're down, you. Come on.
Get
him, man. Get him, man. Get him, man.
Get him, man. I'll finish you. Get him, man.
Get him, man. Get him, man. Get him, man.
C'est votre second long métrage sur le thème de l'enfance et de la violence. Pourquoi ce thème, vous avez un problème dans votre enfance? Et puis deuxième question, c'est comment on fait quand on aborde un thème comme ça pour pas tomber peut-être dans des clichés, puis dans une version un peu, je sais pas, glamour de la violence.
Si je raconte ça, moi c'est que ça m'est personnel, donc après je vais pas raconter cette histoire-là si ça me concerne pas. Et après, sur le justement, je pense que c'est un sujet, les enfants soldats, sur lequel c'est compliqué parce que ça peut être en effet assez facile. C'est-à-dire qu'on donne une arme à un gamin et tout de suite, il y a quelque chose de cinématographique. C'est là où ça m'intéressait vraiment de pas jouer avec ça, sur un sujet qui est quand même sensible, de le faire de façon réaliste et donc le faire avec ces enfants-là, quoi, et avec ces gars-là pour avoir cette vérité. Parce que, oui, parce que ça peut en effet être facile et juste du cinéma et que c'est pas le propos du film, c'est pas de faire l'apologie de la violence, c'est montrer une violence qui existe parce que tous ces enfants, quels que soient les enfants, on a tous une violence en soi. Après, le danger, c'est de manipuler cette violence et que tous ces chefs de guerre, tout ça, qui ont utilisé cette violence quand les gamins, au fin de la guerre, quoi.
Ah ouais, justement, j'ai trouvé que moi j'ai trouvé que c'était un excellent film, mais que on comprenait pas tellement, enfin tous les mécanismes de la fabrication de ces soldats. On voit un peu comment l'un d'eux est recruté, mais aussi toute la formation qui est peut-être qu'il y a pas mal de choses qui manquent, puis aussi peut-être un plan plus large sur la situation dans pourquoi est-ce qu'on fait appel à des enfants soldats dans ce genre de conflit, quoi.
Je sais pas, vous avez déjà joué aux cow-boys, aux indiens avec des pistolets?
Ouais.
Non, mais il n'y a pas de formation. C'est-à-dire qu'on s'imagine qu'ils vont aller dans un camp militaire, qu'ils vont s'entraîner, qu'ils vont avoir une cible, ils vont tirer. Non, on leur donne une arme, on dit vous tirez, et ils tirent. Qui tire dans la cible, pas dans la cible, ils s'en foutent, c'est de la chair à canon. De toute façon, ils les envoient et l'idée, c'est de tirer dans tous les sens. Au Liberia, c'était chez MSF, par exemple, c'est la première fois qu'ils voyaient des gens avec des balles dans le dos. Des mecs qui arrivaient avec vraiment, ils se tiraient dessus entre eux, c'est-à-dire qu'ils tiraient et puis il y a quelqu'un devant, ils se tirent dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formation, c'est des gamins qui sont enrôlés et qui sont embarqués dans une espèce de folie de groupe. Donc avec ces rites, l'initiation, qui est un rite important qu'on voit dans le film, initier ces gamins et après rentrer dans le jeu de la guerre, mais sans jamais essayer d'avoir une espèce de conscience de ce qu'ils étaient en train de faire et ni même. Des étapes très, on va dire, très construites de l'évolution des personnages. Non, c'est une espèce de folie. Il faut avancer, et on ne peut jamais reculer sans prendre conscience du tout de ce qu'on est en train de vivre et de ce qu'on est en train de faire. Quoi.
Ouais, non, ils sont plutôt bons. Quoi. Quand ils vont chercher le sniper dans le building, ils ont l'air plutôt pro, non?
Ouais, peut-être trop, là. Ouais. Patrick Robert, qui a fait les photos qui sont à la fin, par exemple, qui est un photographe de guerre, il m'a dit, ouais, cette séquence-là, à la limite, ils étaient presque pas autant organisés, c'était plus une espèce de folie, c'était anarchique, et puis ils y allaient, mais pas aussi militaire et pas aussi organisé. That's a pitiful visual, but this shit is true. Ain't no shame in my game, I'm from the B's too. Game full of ups and downs, ain't no guarantees. Listen, y'all's road pass, doing three while they leave back. Get out the car, I'm in the driver's seat. Suite de notre entretien avec Jean-Stéphane Sauvert à propos du tournage du film Johnny Mad Dog. La préparation était longue, ouais, et je pense que c'est ce qui a permis au film d'exister, parce que tourner au Liberia, c'est le premier film qui s'est tourné dans ce pays. Donc il n'y a pas d'infrastructure, ils sortent de 14 ans de guerre, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'électricité, tout est sur groupe électrogène, il n'y a pas d'eau, Donc tout est un problème, c'est-à-dire qu'à un moment, amener une équipe et faire un film là-bas, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc, par contre, et puis c'est quand même encore sensible, on va dire. Il a fallu, par exemple, faire des campagnes d'information, de dire attention, on va tourner un film, il y aura des enfants avec des armes dans la rue. Et c'est un film, c'est pas la réalité qui reprend, parce que 2 ans après, les gens peuvent dire c'est reparti, quoi. Et paniquer. Après, il y a l'ONU qui est présente là-bas, il y a 15 000 hommes de l'ONU, donc il y a un embargo sur les armes. Donc faire un film de guerre sans armes, ça devenait compliqué aussi, quoi. Donc on a dû passer par le Conseil de sécurité à New York pour essayer d'importer des armes de cinéma, ils ont refusé. Tout ça prend du temps, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire tiens, on y va. Et donc on a eu des répliques. Après, un jour, on est tombé sur un endroit où on devait tourner l'attaque de la télé et des explosions et tout ça. On s'est aperçu que le champ était miné. Donc vous dites, bon, ben, on va peut-être changer de décor, mais c'est le jour du tournage. Il y a à chaque fois des choses qu'on n'a pas sur un tournage classique parce que, et qui sont liées au fait que ça soit Liberia et que c'est un pays qui sort de la guerre. Mais donc la préparation, moi j'ai passé presque un an tout seul à faire le casting, donc à y aller, à revenir, à voir les gamins, parce que c'est pareil, je pouvais pas faire une annonce radio en disant je cherche ancien enfant soldat pour un tournage de film. Fallait expliquer aux gens ce que c'était, ce que j'avais envie de raconter, trouver les bonnes personnes, parce que vous voyez beaucoup de monde, et puis après il faut trouver les gamins qui ont une personnalité aussi intéressante par rapport à tout ça. Donc ça a presque pris un an, et après j'ai loué une maison, je me suis installé avec eux, les 15 qui sont dans le film. La Small Boy Unit, et chaque jour on travaillait, il y a une coach qui est venue pour les amener dans une discipline, parce que c'est des gamins, comme je disais au début, qui sont des gamins de la rue, donc à un moment, on ne sait pas si au moment où on va commencer le tournage, ils vont aller jusqu'au bout, quoi. Il y avait 6 semaines de tournage, il fallait que s'ils commencent, ils soient motivés et qu'on puisse finir le film, parce qu'il n'était pas question qu'ils s'en aillent en cours de route, quoi. Donc tous ces éléments font qu'une longue préparation est importante. Après, c'est une préparation, on était très peu, quoi. Moi, j'ai passé longtemps tout seul et tout, donc mais c'est du temps qui est important. Et du vraiment début où j'ai commencé à adapter jusqu'à maintenant, il s'est passé 5 ans. Quoi, parce que c'est aussi un premier film, donc c'est plus long à monter, que c'est des sujets qui ne sont pas faciles, il faut trouver le financement, et que tout ça est quand même long. Quoi. Pas tant au niveau de l'écriture, parce qu'il y a eu ce bouquin, donc il y avait déjà cette matière qui existait, donc le premier scénario était assez rapide, mais après, à mettre en place, c'était un peu long. Simple quelque part, plus on est proche de ce qu'on a envie de raconter. Mais il y a forcément au départ, en tant que réalisateur, une espèce d'envie de travailler aussi sur la forme cinématographique. Le film, je ne l'ai pas fait avant en DV, comme si c'était un film très réaliste et tout. J'ai essayé de le construire comme un film de cinéma en scope, avec une volonté sur l'image, quoi. Donc les ralentis ou les effets, tout ça, faisait partie de ça. Et en même temps, ça m'amusait de confronter ça aussi à la référence qu'ils ont, eux, qui sont les films de guerre américains et qui sont un cinéma hollywoodien. Quoi. Leur univers, c'est plus ça, c'est-à-dire que la façon dont ils se déguisent, la musique qu'ils écoutent et tout, ils sont dans un rapport aux États-Unis très proche. Quoi. Notamment par l'histoire du Liberia qui a été créée par les Américains où ils ont envoyé les esclaves dans ce pays et donc ils se considèrent comme le 51e État des États-Unis. Quoi. Ils ont comme ça dans leur façon de parler aussi. Quoi. Ils ont une espèce d'anglais où on dirait un peu de l'américain, une espèce de phrasé. Cet anglais américain est, on va dire, la langue commune à tout le monde. Parce qu'après, il y a des dialectes. Mais le problème, c'est comme ça a été... On a renvoyé les esclaves de différentes ethnies. Donc, il y a une 20aine d'ethnies au Liberia. C'est un pays où il y a 3,5 millions d'habitants. Donc, c'est énorme. Et donc, du coup, finalement, les gens se parlent plus en anglais. En tout cas, à Monrovia, dans la capitale. Après, si vous partez un peu dans le pays, c'est différent. Ils se parlent qu'en anglais. Moi, les gamins, ils ne parlent qu'anglais. Enfin, cet anglais, on va dire, assez basique.
No one is allowed to enter here. We cannot allow no one to enter this place with arms.
No, I can't leave my weapon.
You have to leave your weapon if you want to enter this place.
My weapon is my mother and my father. So
I just told you, no arms is allowed in here.
No one is stopping from entering. You have to back off. No arms is allowed inside. It's an emergency hospital.
There's no government troop in here. The only people who have here is the civilians.
Le fait d'avoir des enfants soldats dans le pays, c'est un traumatisme important pour le Liberia. Comment ça se passe en fait la reconstruction de ces personnes hein, qui sont détruites quoi par la guerre et puis comment c'est pris en charge par le peut-être les pouvoirs publics, et puis comment votre film, prend sa part peut-être dans ce truc de de reconstruction. Quoi.
Ouais, ouais. Mais c'est la réintégration et la reconstruction d'un pays qui a vécu 14 ans de guerre, et c'est quand même difficile. Pour les enfants, c'est difficile. Pour les ex-enfants soldats, si on prend les 15 gamins du film, ils ont entre 12 et 16 ans, ils sont nés dans la guerre, ils n'ont connu que ça, donc ils n'ont jamais été à l'école, ils n'ont pas de famille. Et ils sont rejetés un peu par la société, parce qu'on sait, on identifie assez... ces gamins comme ayant tué, comme étant enfants soldats, comme ayant donc comme étant des délinquants aujourd'hui, donc source de problèmes. Et donc c'est compliqué quand vous avez 15 ans dans une société qui a 90 ou 95% de chômeurs, d'arriver et que vous n'avez pas d'éducation, donc d'arriver à commencer une vie quoi à 15 ans, parce que aller à l'école, ils disent oui on a envie, et puis au bout de deux semaines bah, ils arrêtent parce qu'ils ont la liberté de la rue, donc à un moment ils ont été élevés comme ça et ils sont dans l'instant présent. Ils vivent vraiment heure après heure. Ils ne se posent jamais la question du futur. Est-ce que je vais faire dans un mois, dans deux mois, dans dix ans? Il n'y a aucune notion de temps, quoi. Donc, à partir de là, c'est difficile de mettre en place des projets et d'arriver à les réinsérer, si ce n'est en ayant vraiment des choses, des programmes de long terme et d'être proche de ces enfants, quoi. Après-guerre, il y a eu des programmes qui ont été faits par l'ONU, par exemple, et des ONG sur place. L'ONU, il proposait, en gros, $150 si vous rendiez votre arme, votre Kalachnikov ou autre arme, et $150 pour encourager à aller à l'école. Un gamin de 15 ans qui vous donne $300, deux heures après, ça y est, il a fumé, il a été acheté des vêtements, il a donné un peu à des amis, et puis il n'a plus rien. Donc, il ne se dit pas, je vais garder mes $300, et puis je vais essayer de faire quelque chose avec, je vais acheter des choses, je vais les revendre et tout. Non. Donc c'est des programmes qui, si on ne suit pas ces enfants, sont compliqués à mettre en place. Après le film, on a monté une fondation, parce que moi c'était important, comme j'ai passé deux ans là-bas, un an vraiment à vivre tous les jours avec eux, de ne pas les laisser comme ça et repartir. Donc j'ai créé une fondation qui s'appelle Fondation Johnny Mad Dog, où on essaye de les suivre, c'est-à-dire qu'on a un lieu, ils peuvent venir, ils dorment, il y a un éducateur qui s'occupe d'eux. Et je vois les changements, mais c'est des changements qui s'opèrent quand même très lentement, quoi, parce que à cause de, je pense, cette notion de on pense pas au futur. Donc là ils sont contents, il y a la maison, ils savent qu'ils peuvent venir manger et tout ça, mais ça s'arrête là, c'est à dire qu'ils ont du mal eux-mêmes à rentrer dans un processus de construction. Et là, au mois de juillet, on a projeté le film à l'ONU à New York. Donc c'était intéressant parce qu'on a eu ces discussions-là. Parce que je pense que c'est des gens qui sont dans des rapports et tout ça. Et que parfois, d'avoir cette réalité, de comprendre comment fonctionnent ces gamins, bah, permet de voir quel programme on pourrait mettre en place pour les réintégrer et les réinsérer dans la société, même si c'est quelque chose de pas simple.
Jean-Stéphane Sauvert, réalisateur de Johnny Mad Dog, film qui a été présenté au dernier festival de Cannes, section Un certain regard, sorti en salle, prévu le 26 novembre. A noter que le film est produit par Mathieu Kassovitz et Benoît Jaubert. Jean-Stéphane Sauvert, on l'a rencontré à Lille. C'était à l'occasion d'une avant-première organisée dans le cadre du festival CineSun. C'était à la fin août. Quelques références pour aller plus loin sur le sujet, si ça vous dit. Le bouquin « Johnny Chien Méchant » signé Emmanuel Dongala, c'est aux éditions du Serpent à Plumes. Le site internet de la fondation Johnny Mad Dog, c'est au www.jmdfoundation.org. À voir peut-être aussi un autre film sur le thème des enfants soldats. Ça s'appelle Ezra, c'est signé du réalisateur nigérian Newton Adwaka. Et puis enfin, à lire l'article Wikipédia sur les enfants soldats, vous y apprendrez peut-être que le nombre d'enfants soldats actuellement en activité est estimé par l'ONU à 300 000 dans le monde entier, en Afrique, en Asie du Sud et aussi en Colombie. Southern trees. Barren, strange fruit, blood on the leaves, and blood at the roots. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene
of the gallant South. Them big bulging eyes.